Sud Radio, le grand matin week-end. Le livre du dimanche.
Le livre du dimanche qui est signé de notre invité Yacine Amened. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes éducateur sportif à Cachan.
Oui.
Et vous publiez Les hors-jeux du football français. Le coup de gueule d'un éducateur. C'est publié chez Talent Sport. Alors Yacine Amened, je croyais qu'on était champion du monde depuis 3 ans, que tout allait bien, qu'on vivait un âge d'or, que la France dénichait tous les ans de jeunes talents et que personne ne pouvait rivaliser, même plus les favelas de Rio. Quand on vous lit, on a l'impression que c'est tout le contraire, que la situation est grave et qu'il faut tout changer sans tarder dans le football français.
Alors, tout changer, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de choses à changer, effectivement. Le titre de champion du monde masque beaucoup de choses, parce qu'on a, un football amateur qui est en souffrance, et sans football amateur, il n'y a pas de football professionnel. Voilà, on a des instances qui s'occupent, effectivement, on a un président de la fédération qui est très, très, très intéressé et occupé avec l'équipe de France A. Je rappelle qu'il est juste président de la fédération, donc... délégation de service public et qui devrait un petit peu s'occuper des 15 000 clubs amateurs.
Alors, 15 000 clubs amateurs, et vous rappelez le rapport, combien de clubs professionnels en face ?
On le verra en 45.
45, donc 15 000 contre 45, mais effectivement, on n'entend jamais les clubs amateurs. Qu'est-ce qui leur arrive à ces clubs amateurs ? Parce que globalement, quand vous avez un football professionnel qui surperforme, ce qui est le cas, c'est qu'il arrive à dénicher des talents aussi dans le football amateur. Donc normalement, il a l'air en forme.
Disons qu'il y a des choses qui vont bien parce qu'on a énormément de joueurs qui sortent de ces clubs-là parce qu'on travaille plutôt bien.
Ouais.
Après, on manque de structure, on manque de moyens. Mmh. La fédération verse beaucoup d'argent pour l'équipe de France A,
ouais.
Mais elle reverse très peu au football amateur. Ensuite, on a malgré tout, et c'est là le vrai problème, des problèmes de comportement autour du football amateur. Mmh. Notamment autour des stades, des matchs des enfants entre U10, U11, U12.
C'est ça.
Avec
moins
des
de
parents.
10 ans, moins de 11 ans, moins de 12 ans.
Voilà.
Les enfants se battent, vous le racontez, les parents se battent. On parle toujours de la violence dans le football et on a l'image d'Épinal, du hooligan, du grand club. En fait, non, ça commence avec les parents au bord de la pelouse.
Oui, parce que malheureusement, aujourd'hui, les parents ont ce rêve de voir leur enfant devenir joueur professionnel, devenir une star, gagner beaucoup d'argent. Il l'avait avant, mais je trouve que, en fait, il y a eu... alors, pour moi, je le situe autour de 98. On peut peut-être aller un peu plus loin parce qu'il y a une vraie explosion des salaires autour de 2004, oui. 2006. Mais autour de 98, on se rend compte que le football peut rapporter de l'argent, que c'est quelque chose qui peut être important, qui vous donne une image et qui vous permet de sortir de la misère. J'ai pas envie de dire de la misère, mais de grimper dans l'échelon social très vite.
C'est ça. Sauf que, bon, c'est un sur combien qui essaye ?
Alors,
combien de saumons remontent la rivière ?
Et voilà, et le problème, il est là. Sauf que, malheureusement, les parents ont souvent ce réflexe de se dire, ce sera le mien.
Ouais.
Le mien, c'est le plus beau, c'est le plus fort. Donc, c'est lui qui va y arriver.
Sauf que là, si je vous arrête un petit peu, on a l'impression d'avoir vécu ça aussi dans le tennis. Hein. Ça arrive assez souvent qu'on ait une maman d'Adrien Rabiot qui encourage un petit peu trop son fils sur un match de tennis. C'est quoi la différence avec le foot ? Vous dites que ça va jusqu'à la violence.
Oui, alors, il y a deux grosses différences. La première, c'est que le tennis, c'est un sport individuel.
Ouais.
Donc, on compte que sur soi. Et en fait, on n'emmène personne avec soi. Le football, c'est un sport collectif. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, tout devient un obstacle, tout devient un ennemi. L'éducateur qui vous fait pas jouer ou qui vous sort en cours de match, l'adversaire qui fait une faute sur vous et qui vous empêche de marquer parce que vous allez pas avoir de statistiques, l'arbitre qui siffle pas un penalty, et puis après entre les parents, parce que malheureusement aujourd'hui on a, je vais prendre un exemple concret, un parent qui va dire à son fils parce que son l'adversaire le passe 2, 3, 4 fois, va lui dire découpe-le.
Ouais.
Voilà, imaginons que
c'est pas l'exemple. Ouais.
Déjà c'est pas un bon exemple, mais surtout imaginons que c'est vous soyez le parent de l'adversaire.
Mais évidemment.
Et comment réagir ?
Mais j'interdis à l'autre de découper mon fils. Oui,
voilà,
effectivement.
Mais c'est comme
et
ça
du coup,
que ça
s'envenime. Voilà. Et du coup, on a des scènes de violence extrêmement récurrentes sur le bord de tous les terrains amateurs.
Alors, que ce soit bien clair, pas physique, mais évidemment verbal très très souvent.
Et un état d'esprit,
ça peut déraper.
Voilà. Et un état d'esprit surtout qui est particulièrement toxique alors que ce sont des gosses. Vous allez plus loin, vous dites qu'en France, alors c'est un peu contre-intuitif, on souffre d'une obsession du résultat, mais en théorie c'est plutôt bien. D'ailleurs, c'est pas très français d'être obsédé par le résultat. Nous, on est plutôt le contraire si je regarde une autre image d'Épinal.
Oui, après, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on met nos éducateurs dans une situation où il faut qu'ils gagnent. Peu importe comment ils font, peu importe avec qui, peu importe ce qu'ils font des joueurs, l'important, c'est qu'ils gagnent. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, on fait face à des enfants. Encore une fois, quand on arrive vers le haut niveau, quand on arrive vers les seniors, même vers les U18, qui sont aux portes du football professionnel, qu'on soit dans le résultat, parce qu'on est dans la compétition, évidemment. Mais chez nos enfants, on doit quand même passer par l'étape plaisir, par l'étape copain, par l'étape je viens au foot parce que je m'éclate. Ouais. Et ça fait partie de la construction de l'enfant. Or, on n'a plus d'enfants puisqu'ils sont déjà pratiquement dans un métier. Ils viennent faire un métier. Ils viennent jouer.
À 12 ans.
Parce que malheureusement, on leur a fait croire que s'ils gagnent les matchs, ils vont être repérés. S'ils marquent des buts, ils vont être repérés. Donc, ils ont déjà tête...
Et ils n'aiment pas ce qu'ils font, du coup. Si vous dites qu'il n'y a pas de plaisir...
Oui, il y a pas de... En fait, c'est pas qu'ils aiment pas ce qu'ils font. Ils aiment le foot, parce que je pense qu'ils aiment tous le foot. Quand je dis il y a pas de plaisir, c'est qu'ils viennent au foot parfois forcés. Ça veut dire quand je prends l'exemple, vous avez deux entraînements par semaine. Si vous en ratez un, vous ne jouerez pas le week-end. Mm-hmm. Et ben, il y a un enfant qui va venir à l'entraînement pour être convoqué le week-end, mais c'est pas forcément parce qu'il a envie
donc
de venir.
Donc il va rien faire à l'entraînement, quoi.
Disons qu'il n'est pas à fond, il n'a pas forcément envie, il n'est pas forcément à l'écoute. Il est là parce qu'il faut être présent.
Quand on vous écoute, quand on vous lit et quand on vous écoute, on a l'impression que le football amateur est une forme d'usine, notamment avec les gosses, le football amateur français. C'est-à-dire que d'une part, ils ne prennent pas de plaisir et d'autre part, en plus, c'est tous les mêmes. On forme tous les mêmes joueurs.
Oui, bien sûr. Parce que en fait, c'est quelque chose qu'il faut analyser au niveau mondial, par exemple, là, un peu plus européen même, c'est de dire voilà, quel profil de joueur peut intéresser les clubs étrangers qu'ils n'ont pas. Nous, on va fabriquer ça.
C'est ça.
Voilà. On va fabriquer le grand costaud parce qu'à l'étranger, ils ne l'ont pas. Ils ont des petits joueurs techniques parce que la population est comme ça, parce que leur philosophie est comme ça. Et donc, nous, on fabrique ce que les autres n'ont pas.
Ça veut dire que si vous avez un gosse et qu'il ne devient pas grand et costaud, il y a beaucoup moins de chances qu'il perce en France.
Oui, oui, déjà, mais il y a d'autres profils. C'est-à-dire que, par exemple, sur les joueurs offensifs, on va être pas forcément sur du grand, mais sur du joueur très rapide qui va faire des différences individuelles, mais qui va pas forcément être dans la réflexion collective du football.
C'est ça.
Mais c'est quelque chose qui est important parce que c'est un joueur qui se vend vers l'étranger.
Oui, sauf que nous, et vous en tout cas, c'est un sport d'équipe, justement. Oui. Est-ce que du coup, les Français sont beaucoup plus perso, les jeunes Français, que les jeunes Européens, Allemands, Espagnols, Italiens?
Oui, ils ont un rapport au football qui est plus personnel et on le voit régulièrement. Ça veut dire que même dans les équipes étrangères, on voit quand même que ce sont les joueurs à grosse qualité individuelle, mais qui ont certaines lacunes collectives. Alors dans un collectif, quand il y en a un, ça va, parce qu'il peut s'intégrer.
C'est ça.
Voilà, et quand on voit l'équipe de France, on voit bien que c'est un amas, entre guillemets, d'individualité avec des très grosses individualités capables, sur un geste, de vous faire gagner le match. Et c'est ce qui se passe régulièrement.
C'est souvent ce qui se passe. Alors parfois, ça marche bien. Parfois, c'est plus difficile. Revenons quand même à ce que vous disiez aussi sur les instances du football, la Fédération française. Puisque là, que peut faire la Fédération française de football pour empêcher les parents de se battre ou d'être odieux avec leurs enfants? C'est pas son travail.
Mais moi, je pense que c'est une partie de son travail. Alors évidemment qu'on ne va pas être derrière chaque être humain, ça, il n'y a pas de problème.
C'est pas possible.
Mais il y a déjà certaines règles à faire respecter. Par exemple, déjà, on a un certain nombre de cadres techniques.
Oui.
Je pense qu'une partie de leur travail devrait être de se balader autour des terrains le week-end, plutôt que d'être dans les bureaux à préparer des formations, d'aller voir ce qui se passe réellement sur le terrain.
Ils n'ont pas idée.
Non, je pense qu'ils sont un peu déconnectés parce que eux, la plupart de ces gens-là côtoient l'élite des footballeurs, U14, U15, U16. Donc évidemment, avec le meilleur comportement.
C'est ça, évidemment. Et puis avec le plus de talent aussi. Voilà. Ils ne voient pas ce qui se passe à côté. Vous êtes particulièrement pessimiste. Est-ce qu'on peut... On a presque l'impression que le football est à la veille d'un grand déclin en France quand on vous lit, notamment la situation économique du sport amateur. On sait que celle déjà du sport professionnel, du foot professionnel, n'est pas brillante pour beaucoup de clubs. Est-ce qu'on est à la veille d'une catastrophe?
Pas d'une catastrophe si on se réveille et si on ouvre les yeux, si on est ouvert au débat, si on est ouvert à l'écoute. Je pense que le sport général en France, il y a eu un papier cette semaine dans l'équipe à propos des JO 2024. Ouais. Je crois que le foot n'est pas le seul concerné.
Voilà.
On prend toujours du retard parce qu'on ne prend pas de décision, parce qu'on n'écoute pas forcément.
Pourtant, on était les premiers à créer les centres de formation.
Mais justement, et je pense que ça a été notre erreur, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire qu'on est resté sur cet acquis-là. Tout le monde est venu chez nous prendre exemple. Les autres ont avancé, et nous on s'est dit, c'est nous qui avons inventé, on est toujours les meilleurs.
Autre cliché, les Français se reposent sur leur laurier, ça leur arrive aussi de temps en temps, on est champion du monde, on va essayer de le rester, mais ça va être compliqué. Vous parlez d'un autre changement qui serait important aussi, ce serait d'obliger les gosses à jouer dans le club de leur ville. et d'empêcher justement un petit Paris Saint-Germain du canton d'aller piquer justement tous les bons joueurs des clubs autour.
Oui, bien sûr, pour deux raisons. La première, je pense que, et on a tous grandi comme ça, parce que c'était un schéma plutôt classique à l'époque, on jouait dans le club de sa ville, donc le lundi, on reparlait de son match avec ses copains et on était contents.
C'est plus le cas aujourd'hui.
Non, parce qu'aujourd'hui, on a des enfants qui sont déjà repérés très, très tôt en U9, en U10, qui quittent le club de leur ville pour aller dans le meilleur club du secteur. Donc, ils jouent avec des enfants avec lesquels ils ne sont pas à l'école. Ils les voient, c'est déjà des
coéquipiers. C'est pas leurs amis, voilà. C'est des collègues, en fait, presque.
Exactement.
Ils travaillent trop jeunes, en fait.
Voilà. Et après, la deuxième chose, c'est que ces clubs-là, en recrutant énormément, alors qu'ils n'ont le droit de faire jouer que 6 nouveaux joueurs par match, ils laissent énormément d'enfants le week-end à la maison.
C'est ça. Et donc, du coup, c'est un gâchis sans nom. Et en plus, les autres enfants ne peuvent pas jouer, tout simplement.
Voilà,
vous aimeriez aussi associer l'école à la pratique du football, ce qui serait peut-être une bonne chose aussi. Merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio.
Merci à vous.
Yacine Amened, auteur de ce livre, Les hors-jeux du football français. C'est publié chez Talents Sport. Vous pouvez vous le procurer aussi si vous avez. Alors, rassurez-vous, si vous avez des enfants qui jouent au foot, continuez à les envoyer.
Oui, il y a de l'espoir,
Il y a besoin aussi, justement, il y a de l'espoir et il y a besoin, mais il faut aussi changer quelque chose. Merci beaucoup d'être venu sur Sud Radio. Vous écoutez le Grand Matin Week-end dans la dernière ligne droite, le Money Time presque, il est 9h51. Où sortir le week-end, notre dernière rubrique. On vous emmène tout de suite au château de Versailles avec notre invité qu'on accueille avec le plus grand plaisir. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et bienvenue sur Sud Radio. Merci de prendre la parole sur Sud Radio, Nicolas Milovanovic. Vous êtes conservateur en chef au département des peintures du musée du Louvre avec cette exposition « Les animaux du roi au château de Versailles ». On peut découvrir à peu près tous les animaux dans l'univers... Dans